Ok. Très bien. Alors, on va essayer de démarrer. Bon, j'ai tout de suite, je ne suis pas dans une forme olympique. Ça fait 2 jours que je ne suis pas trop bien. Avant de lire un petit mot, pour contextualiser un petit peu les 2 épisodes qu'on avait à survoler cette fois-ci, vous rappelez que j'avais donné un titre qui était que la péricope, enfin les 2 péricopes condensées de la tournée de Pierre en Judée, bon, ça nous donnait déjà une idée. Mais donc, pour introduire un petit peu, dire que cette tournée de Pierre en Judée, elle démontre très clairement ce que j'avais déjà conclu la fois passée, c'est que la paix est revenue à Jérusalem. Donc, ça lui permet de sortir, lui qui est un des piliers. Et donc, sa présence à Jérusalem n'étant plus indispensable, il se permet de faire la tournée des nouvelles églises, entre guillemets, situées en Judée. Bien sûr, elles sont nées pour la plupart de la dispersion des persécutés de Jérusalem, c'est-à-dire il y a déjà 3 ans en arrière. Et alors les 2 récits, l'un concernant Aîné et l'autre Tabitha, mettent un peu en avant finalement l'apôtre Pierre et introduisent d'une certaine manière l'œuvre missionnaire auprès des païens, celle de Pierre d'une part, mais aussi celle de Paul par la suite. Puisqu'on sait que nous, à la fin de ce chapitre, on entre directement dans la réalité avec la conversion de Corneille, centurion romain, dont on parlera au prochain chapitre. Et les actions de Pierre feront l'objet des attentions de Luc jusqu'au chapitre 12. Donc on a plusieurs chapitres consacrés à ce que Pierre a fait, et on pourrait même dire en quoi il rejoint la vision de Paul, c'est-à-dire que les païens sont admissibles à la grâce du Seigneur. Voilà. Et donc, pour introduire tout cela, Luc nous parle juste de 2 faits qui se sont déroulés pendant cette tournée, un petit peu de manière sélective, si vous voulez, comme si il n'y avait eu que 2 faits, mais en réalité, il y a eu sans doute bien d'autres choses dans d'autres églises. Et on va donc commencer avec la lecture. On va peut-être s'arrêter au verset 35 d'abord, pour ne pas nous noyer d'informations, donc ce qui concerne Aîné, les versets 32 à 35 de notre 9e chapitre. Très court.
Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydda. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur.
Très bien. Alors, on a d'abord cette affirmation. Alors, ça dépend des traductions, bien sûr. Dans la Tope, c'est se déplacer continuellement. Alors qu'on sait que nous, qu'il est resté quand même très immobile à Jérusalem pendant des années, là, maintenant que la paix est revenue, il est devenu mobile, on va dire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans vos autres traductions.
Parcourir
tout le pays.
Ouais. Toute la contrée.
La contrée, c'est la Judée. Hein.
Visiter.
Visiter
tous les saints.
Visiter, d'accord.
Quand on parle de la Judée à cette époque-là, on parle du même territoire que maintenant, grosso modo, ou ça fluctue.
La Judée aujourd'hui, c'est Jérusalem et une partie des montagnes et de l'environnement de Jérusalem. Ce n'est plus le territoire. Oui, c'était bien plus grand puisque ça allait jusqu'à la mer. Si tu veux, de la vallée du Jourdain, puis de la mer Morte, tout ça, c'était la Judée jusqu'à la mer, en gros, jusqu'à la Méditerranée.
Et tu l'as sur une carte.
Donc c'était assez grand, hein, un grand territoire.
La Judée, c'est tout ça.
C'était tout ça, oui, à l'époque.
Puis la Samarie, puis la Galilée, tout ça.
Voilà, à l'époque de Jésus.
Oui,
Et donc la ville de Lydda et de Joppé, disons que Lydda c'est une petite ville, Joppé c'était beaucoup plus grand, c'était un port en fait. Ok, donc, je ne sais pas si sur vos cartes on a Lydda déjà.
Oui, Lydda,
c'est très près de Joppé. La distance est... Alors, le grec, lui, il dit qu'il passait partout. C'est-à-dire, voilà, il a décidé de faire une tournée, et il s'arrête partout où il y a une église qui s'est constituée, quoi. Mm-hmm. Mais ça veut donc aussi dire qu'il n'y va pas par surprise. Donc c'est quelque chose d'organisé. Donc ça veut dire que toute ville ou village où s'est instituée une petite communauté de croyants sait que Pierre arrive, en gros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, je fais la même remarque que j'avais déjà faite il y a quelque temps, l'expression « il descendit », ça veut tout simplement dire qu'il part de Jérusalem, qui est le plus haut point de la Judée, pour aller vers la mer. Donc nécessairement, il descend, il descendit. Et on a quand même, en tout cas pour le grec, la mention du « aussi » qui est importante. Il descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda, etc. Ce « aussi » est important. Ça veut donc bien dire qu'il a visité d'autres communautés. Et que les deux cas qu'on va nous citer ici, c'est un exemple. Donc il visite d'autres églises en chemin, dont bien sûr Luc ne nous dit rien, ça c'est clair. Et Pierre se rend chez des croyants messianiques à Lydda, en tout cas il s'y arrête, c'est un des buts de sa tournée. Alors Lydda, ça correspond dans l'Ancien Testament à Lod, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans l'Ancien Testament, à Loud éventuellement, ça dépend comment on le prononce, c'est à peu près à un jour de marche, environ 40 km, sur la route qui conduit au port de la ville de Joppé. D'accord ? Donc c'est vraiment un truc qui descend jusqu'à la mer. Mais en tout cas, la distance Jérusalem-Lydda, c'est une bonne journée de marche quand même. Mais il s'est sans doute arrêté entre-temps, déjà. Lydda était à l'époque la capitale d'un petit district de la Judée. Donc la Judée était morcelée en districts. Où résidaient, et c'est le cas de la plaine de Saron dont on parlera aussi, où résidaient des non-juifs. Donc c'est de nouveau un territoire mélangé. Il n'y a pas que des juifs, il y a des gens de la culture gréco-romaine qui habitent aussi ces régions-là. C'est d'autant plus vrai qu'Israël n'est plus Israël. Israël est devenu la Palestine, totalement gérée par les Romains. Et donc les juifs n'ont rien à dire sur les populations qui arrivent chez eux. Voilà, en gros, quoi. Il n'y a plus d'État, quoi. Et dans cette contrée de Lydda vivaient pas mal de rabbins renommés pour l'époque. Il y avait même une école rabbinique importante. Et on nous dit donc dans le texte qu'il trouva là un homme du nom d'Aîné, sous-entendu là, dans le cercle des croyants qu'il visite. Voilà, ça ne nous dit pas grand-chose nécessairement, mais c'est un point supplémentaire. Et alors, on a Aîné. Est-ce que quelqu'un a fait quelques petites recherches sur ce bonhomme? Ce que j'avais demandé qu'on regarde.
Juste
Aîné, paralytique. Ok, c'est déjà pas mal. Alors, croyant, on ne sait pas.
Enfin, s'il est dans le cercle des croyants.
Ah, il côtoie ce cercle des croyants, manifestement. Étrangement, il porte un nom...
Hellénique,
grec, n'est-ce pas? Parce qu'Aîné, c'est qui dans la littérature?
Je l'ai lu, mais j'ai oublié. Je l'ai lu, mais comme ce n'était pas celui-là, j'ai
pas. Ah oui, oui, oui.
Bon, c'est un des fameux héros de la guerre de Troie.
Voilà.
D'accord? Donc, on suppose quand même que des parents juifs n'auraient peut-être pas donné ce nom. Surtout que c'était une mythe, hein, c'est même pas une réalité. Alors, qui était-il, ce fameux aîné, pendant la guerre de Troie? Ben, c'est l'allié des Dardaniens, c'est un redoutable guerrier, c'est le cousin et le lieutenant du prince Hector, c'est-à-dire le fils du roi Priam, qui sera tué par le fameux grec Achille. Vous vous souvenez sans doute.
Oui, voilà. Tu es un homme cultivé.
Donc c'est...
En même temps, donc... c'est pas le même. Hein.
Mais non, c'est pas le même. Mais bon, porter ce nom-là n'est pas rien.
Pas rien.
Et je suppose que si Luc nous le donne, alors qu'il aurait pu ne pas nous donner le nom de ce gars, c'est que le détail a une certaine importance quand même. Et on pourrait même penser que... Alors je sais pas comment vous l'avez dans vos versions... réciproque. Nous, il est dit dans la Tob, il trouva là un homme.
Oui.
Nommé Aîné.
Un humain. Voilà. Alors, et si vous faites la comparaison avec Tabitha, qu'est-ce qu'on dit de Tabitha? Est-ce qu'on dit une femme?
Ben oui.
Enfin, non, pas en grec, en tout cas.
Ah oui, mais pas en grec. Oui.
Une femme disciple. Moi, j'ai une femme nommée.
Une femme disciple.
Donc, en fait, pour Tabitha, on a une disciple, en réalité, en grec.
Ah, ouais.
Parce que le mot disciple est au féminin en grec. Il n'y a pas de féminin pour nous. Un ou une disciple, ça s'écrit pareil. Mais en grec, on sait, c'est d'ailleurs le seul cas dans tout le Nouveau Testament, on parle d'une disciple, sous-entendu femme. C'est pour ça que dans nos traductions, on a souvent une femme disciple ou une, etc.
Ah, oui, oui.
Mais en grec, ça n'y est pas. D'accord ? C'est juste une disciple féminin. Et donc, si on fait la comparaison...
Mais c'est vrai que c'est surprenant que c'est anthropos, c'est pas andros.
Ah oui, ça aurait pu être andros, ça aurait été beaucoup plus simple.
Plus logique, mais oui.
Donc là, on a l'air d'insister sur un statut particulier d'aîné. Aîné, c'est un homme portant un nom humain. Grec, hein, un humain portant un nom grec, et qui donc ne serait sans doute pas disciple. Parce que s'il l'avait été, il aurait utilisé le mot disciple.
Ah, ouais.
Puisque quelques lignes plus loin dans son texte, il parle de Tabitha en disant disciple. Donc il nous donne quelques indications du pourquoi et du comment. En tout cas, ce qu'on peut dire, sans pécher, je veux dire par rapport à l'exégèse, c'est qu'il s'agit d'un être humain qui fréquentait les disciples, puisque c'est là qu'on le trouve, ou du moins qui en était connu, au point que les disciples vont dire à Pierre, voilà, il y a un homme là qui souffre depuis tant d'années, patati patata. Alors, on estime qu'il est peut-être un gentil païen, hein. J'aime bien ce gentil païen. C'est un gentil craignant Dieu, vraisemblablement, puisqu'il fréquente la communauté des croyants, mais sans doute pas un prosélyte. Alors il faut faire la différence, ça je ne l'ai peut-être jamais dit au cours de nos études, faire quand même la différence, il y a deux statuts. Il y a les craignants Dieu, comme on le verra avec Corneille. Ce sont des gens qui se sont approchés du judaïsme, mais qui ne se sont pas fait circoncire, qui n'ont pas les mêmes devoirs, si vous voulez, mais qui respecte le Dieu d'Israël. Tandis qu'un prosélyte, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de la démarche, même s'il est encore considéré comme un demi-juif parce que d'origine étrangère, il se fait quand même circoncis, en tout cas pour les hommes. Tant mieux pour les femmes qui n'ont pas besoin de le faire. Tout quand on est adulte, ça ne doit pas être la rigolade. Sans compter, sans doute, point de vue santé, il y avait des risques un petit peu quand même. En tout cas, le fait qu'il porte un nom grec nous prépare, nous lecteurs, à l'œuvre des apôtres envers les païens. De nouveau, on a cette idée qui germe dans le texte. Alors, vous avez dit quoi d'autre sur lui ? Paralysé, paralytique, depuis quand ?
Depuis 8 ans.
8 ans, c'est pas mal, hein, ça fait un joli bail. Donc, ça veut dire paralysé, veut quand même dire, et paralysé et alité, dit le texte. Hein. Donc, incapable de bouger seul. Sous-entendu, toujours dépendant des autres. Hein. Oui, tout à fait. Toujours dépendant des autres. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils fréquentent les disciples, d'ailleurs, parce qu'ils ont de l'amour pour les étrangers, etc. Bon, sans doute. On estime, vu qu'il n'y a que 8 ans qu'il est paralysé et qu'il s'agit d'un homme, on peut estimer que c'est sans doute suite à une maladie ou à un accident. D'accord ? Puisqu'il n'est pas né paralytique. Il y a quelques années qu'il l'est. Mais 8 ans dans la vie d'un homme, c'est quand même une sacrée durée. Et on peut imaginer, si on est un être adulte, qui avait une vie normale avant, toute la peine, pas que la souffrance physique sans doute, mais aussi la morale et psychique, de se retrouver dépendant des autres, de la générosité des autres et en tout. Et voilà que, alors surprenamment, le texte nous dit au verset 34... Pierre lui dit « Aîné, Jésus-Christ guérit », ce qui est quand même assez bref hein, comme injonction. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est justement qu'il l'appelle par son nom. Donc, ce qui sous-entend, un, soit Pierre le connaît, deux, soit Pierre a été introduit auprès de lui par les fameux disciples, ce qui, je pense, est sans doute la meilleure version qu'il faut lire. Donc, il ne le connaît pas précisément, mais il sait qui il est et quel est son handicap. Et pour une raison, alors que nous ignorons parce que Luc ne l'a pas souligné, Pierre prend la décision de guérir cette personne au nom de Jésus. Alors je sais que Pierre et Paul, d'ailleurs, ne font jamais rien sur un coup de tête, c'est que généralement, il y a une révélation divine qui fait qu'ils font, ils posent un geste particulier. On le verra d'ailleurs avec l'histoire de Tabitha.
La guérison de l'infirme de la belle porte, c'était déjà Pierre.
Oui, Pierre et Jean. Mm-hmm. Voilà. Là, on a Pierre tout seul. D'ailleurs, ça va rejoindre exactement les mêmes circonstances, hein, plus ou moins.
La même.
Mais en tout cas, c'est au nom de Jésus, ça c'est clair. Donc, première chose que je voulais souligner, étrangement, il l'appelle par son prénom, donc il en est suffisamment proche, il connaît suffisamment de choses que pour lui parler comme cela, on peut aussi estimer que cet homme qui souffre depuis 8 ans a déjà parlé de son désir auprès des disciples d'être guéri, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être que tout ça a fait que Pierre s'est introduit dans la demande. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est la formule quand même très courte de la prière de Pierre, mais qui en même temps est révélatrice. C'est-à-dire, en quelques mots, on sait que ce n'est pas Pierre qui guérit Énée, mais que Pierre dit clairement que c'est le Christ qui guérit, en l'occurrence. Deuxième chose étrange, il ne demande pas son avis à Énée. Il ne le demande pas comme c'est le cas dans d'autres récits des évangiles, par exemple. Veux-tu être guéri? Bah oui ou non. Hein. En général, on dit oui. Donc là, il ne demande rien et d'office, il propose cette guérison. Et donc, on a des choses assez semblables à ce qu'on a vu au troisième chapitre, hein, dans plusieurs versets du troisième chapitre, sur la guérison, notamment de la belle porte. Et il lui dit très clairement, donc, la suite de sa prière, après avoir fait son amen, si vous voulez, lui dit, bah, maintenant, lève-toi et fais-toi même ton lit.
Je trouve ça comique.
Sous-entendu, ça veut quand même dire plusieurs choses.
Toi-même.
Oui, exactement. Donc, c'est comme s'il lui rendait sa dignité. Mmh. Il n'est plus dépendant des autres. Il devient tout de suite acteur de sa vie. Et puis, ça nous montre aussi que ça se déroule quelque part où il vit. Ça ne se déroule pas dans une église ou dans la rue ou à la belle porte, mais là où il est, alors peut-être chez des croyants, encore une fois, on peut peut-être estimer qu'il est hébergé par l'église. Et par la grâce de Dieu, donc, la dignité lui est rendue et il va pouvoir reprendre le cours de sa vie. Alors, on verra par la suite qu'on a peut-être d'autres choses à découvrir sur Énée. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Une fois qu'il lui dit ça,
il se lève.
Voilà. Jusque-là, on n'était pas sûr qu'il soit guéri. Mais maintenant, il se lève. Il se lève même rapidement, d'après le texte.
Comme
une envie folle de reprendre le cours de sa vie.
Ce qu'on a du mal à imaginer, puisque quand on est... paralysé depuis 8 ans, on n'a plus de muscles.
On n'a pas de muscles, etc.
Donc là, le miracle s'est produit, quoi.
Le même cas pour la guérison à Bethsaïda, à la piscine de... Je ne sais plus trouver le nom. Peu importe. Bethesda. C'est le cas du paralytique à la belle porte, 39 ans, lui, donc ce n'était pas rien. Alors, on est bien dans la continuité, en tout cas, des actions messianiques, des guérisons spécifiques.
Spectaculaires.
Oui. Et donc, le fait qu'il se lève aussitôt, sachant la durée du handicap, la brièveté du récit de la guérison, et même de la prière, la rapidité d'exécution, nul ne peut dire que ce n'est pas un miracle. Tous ceux qui connaissent Énée ne peuvent qu'en déduire qu'il y a là quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et c'est très clairement ce que Luc veut souligner, le côté incroyable. Alors, de Jésus, à la limite, pour ceux qui croyaient qu'il était le Messie, ou même un grand rabbin ou un prophète, pourquoi pas une guérison miraculeuse, mais venant d'un gars qui est chef d'une communauté quasi clandestine, vous voyez. Et qui opère avec une telle puissance, je pense que ça doit quand même marquer un peu les esprits. Alors ça nous fait penser donc à la guérison de l'infirme au temple, ça nous fait penser aussi au paralysé à Capharnaüm avec Jésus dans Marc 2 par exemple, ou dans Luc 5, aussi la guérison du paralytique de la fameuse piscine de Bethesda dans Jean 5. Les termes en tout cas sont quasi les mêmes. Ce qui montre que Pierre se réfère, s'inspire finalement de ce qu'il a vécu avec Jésus. Donc c'est comme une imitation de son Seigneur, si vous voulez. Et qu'il comprend l'action du Christ aussi. Et il est tellement convaincu de l'action messianique de Jésus qu'il ne peut que correspondre à ce qui est annoncé par les prophètes, c'est-à-dire les paralytiques marchent, les aveugles voient, etc. etc. Et manifestement, puisque ce n'est pas son premier coup, Pierre possède le don de guérison. Alors on sait que c'est contesté dans beaucoup de milieux aujourd'hui, une sorte de signe, si vous voulez, de la grâce et du salut adressé aux hommes de toutes les nations, parce qu'ici, on ne guérit pas que des Juifs, nécessairement. Hein? Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Au verset 35.
Tous les habitants de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur.
Ok. Alors, on va peut-être juste re-regarder les cartes pour ceux qui en ont dans leur Bible. Donc, Lydda, une toute petite ville à environ, allez, on va dire 15 à 20 km de Joppé, qui s'appelle Jaffa dans d'autres traductions, peu importe.
Tu l'as,
José?
C'est le Jaffa de maintenant, ça?
Oui, c'est le même Jaffa que maintenant. Jaffa étant à quelques kilomètres de Tel Aviv, ça dépend même de Tel Aviv aujourd'hui.
Oui, oui.
Tel Aviv-Jaffa, on dit. Ah, d'accord, c'est pour vous donner une idée. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Voilà, j'essaye de me rappeler.
20 km, 15-20 km de Joppé.
Oui, donc, en fait, Lydda, c'est la capitale d'un petit district avant la grande ville de Joppé. Et d'après ce texte, si on le lit littéralement, toute la vallée du Saron, c'est-à-dire toute la vallée côtière jusqu'au Carmel, jusque dans les contreforts montagneux, là, aurait été touchée par cette guérison miraculeuse.
Ben oui, c'est
alors,
sûr que ça...
les commentaires pensent que c'est une hyperbole.
Merci.
C'est-à-dire une manière de dire que toute la région autour de Lydda, contenue dans la plaine de Saron, et pas toute la plaine de Saron, vous voyez ce que je veux dire ? Donc les alentours immédiats qui sont dans la plaine de Saron ont été touchés par cette guérison. Quoi qu'il en soit, on ne va pas se battre pour savoir si c'est allé jusqu'au Carmel, parce qu'on n'en aura pas la preuve dans le texte, voilà, tout simplement. Mais on peut imaginer que ça a touché beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, et peut-être beaucoup de gens parmi les païens. On essaiera de voir si ça se justifie après. Alors, il devait être sans doute notoire à Lydda que Aîné était un homme alité, paralysé depuis des années. Donc, il est vraisemblable que pour que la guérison ait une telle, comment on va dire, répercussion régionale, il faut que cet homme soit connu et que son cas soit connu. Donc, ça ne devait pas être n'importe qui, ce fameux Aîné. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait revenir à Aîné dans un moment. Sinon, il n'y a vraiment pas de quoi être impressionné. Voilà. Pourquoi toute la vallée, la région, serait impressionnée par la guérison d'un type qu'on ne connaît pas?
Oui, mais quand même si on ne le connaît pas.
Oui, c'est quand même
extraordinaire. Pour que la renommée soit... Pour que la communication fonctionne, il manque une donnée. Ouais. Il faut quand même que les gens sachent qui est Aîné, quoi, quelque part.
Mais moi, si on me dit, Aîné est paralysé depuis 8 ans, puis maintenant il marche, waouh! Non, enfin, je sais pas, je m'en fous de qui c'était.
Surtout s'il va à l'église.
Oui. Non, mais c'est quand même fou. Voilà.
Donc, on dit que Luc inclut une partie, ou la totalité, ça dépend des commentateurs, de la plaine de Saron, ce qui n'est quand même pas rien. C'est quand même une sacrée flopée de kilomètres. Et c'est pour ça qu'on pense, parmi les commentateurs, qu'il fallait que cet homme soit connu. Et une des choses qui pourrait le faire, c'est qu'il fût une figure importante régionalement. Alors peut-être un grand marchand, peut-être un médecin, un personnage important, collaborateur ou non des Romains, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui devait être suffisamment connu pour qu'il y ait une telle répercussion. Et bien sûr, après... On a le mot « tous hein, ». J'ai, moi, dans ma version ?«
Tous les habitants ».
Oui, « tous les habitants » ou « toute la population », ça dépend, etc. Il y a une idée de totalité. Et on pourrait peut-être formuler alors une phrase, une périphrase qui serait la suivante. « À Lydda et aux alentours, beaucoup de ceux qui connaissaient le paralysé guéri se convertirent. » Quelque chose dans ce goût-là.
ou tous ceux qui virent le paralysé, pourquoi pas aussi, d'accord. Et donc,
alors, j'ai le vire, donc c'est vire.
Oui.
Oui, oui, c'est vrai. Le vire et donc voilà, et se convertir.
Bon, en creux, je ne sais plus ce qu'il y a exactement.
C'est l'ordre bizarre. Et vire lui tous ceux habitant l'Ida.
Ouais, oui, oui.
Lesquels se convertir.
Oui, la construction est assez spéciale en grec, quand même.
Ah bon.
Mais quoi qu'il en soit, on sait que la répercussion a été grande. Hein. Et ce fameux « tous », donc, peut être aussi du registre de l'hyperbole, quelque chose qui est un petit peu, pas forcé, mais pour donner l'idée de la notoriété, de la renommée de cette guérison et de ce que ça a entraîné sur cette ville-là. Et les alentours. Et donc, on nous dit que cette population, les habitants, je crois que c'est en grec les habitants, il me semble, se sont tournés vers le Seigneur, ou convertis selon les traductions. Il me semble que le grec dit plutôt se tourner.
Se convertir, le grec. Enfin, c'est la traduction
ouais.
qu'on a.
Oui. Je pense que c'est. Alors,
oui, j'ai essayé de regarder dans mon dictionnaire grec et je n'ai pas trouvé ce mot-là.
Oui, je pense que c'est plutôt l'idée de se tourner dans le sens de revenir à, qui est une traduction de l'araméen en réalité, d'une tournure sémitique. Parce qu'en grec, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se dirait. Et le verbe utilisé laisse entendre se tourner vers ou revenir à ou, voilà, ou faire. Demi-tour, c'est une connotation de repentance, quelque part. Alors, sans doute qu'il y a des juifs dans le tas, mais il semble qu'il y ait aussi beaucoup de non-juifs, ou en tout cas de non-juifs qui seraient déjà des craignants Dieu, ou carrément des païens, qui se tournent vers Jésus, Messie d'Israël. Et c'est plutôt vraisemblable quand on pense à ce que Luc nous indique, puisqu'il indique que le Saron, la vallée, la plaine du Saron, a été touché par cette guérison d'un homme qui porte un nom grec. Vous voyez tout ça, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et que donc ça touche des gens qui l'ont connu et qui eux-mêmes sont de civilisation gréco-romaine, donc une population mélangée, comme en Galilée, comme en Samarie d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de non-juifs qui vivent là. Et ces conversions-là, elles sont comme un signe précurseur de la moisson, finalement, qui reste à recueillir parmi les nations. Donc c'est comme si on avait les prémices de la moisson. Tout comme il y a eu une sorte de prémisse dans Jean, on l'a vu, quand Jésus fait sa tournée en Samarie, et que la Samaritaine se convertit, puis des centaines de gens se convertissent à cause de la Samaritaine, etc. Mais c'est un peu le même processus ici, où des non-juifs se tournent vers le Dieu d'Israël. Voilà pour cette petite partie de la péricope qu'on devait analyser. Maintenant, on va voir une autre section. Donc, on va lire les versets 36 à 43. Et on va voir la différence, je pense, quand même, entre la guérison d'aînés et ce qui se passe avec Tabitha. Donc, si quelqu'un veut lire les versets 36 à 43.
Bien, ces personnes.
Merci.
Il y avait à Joppé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ce jour-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est proche de Joppé, les disciples avaient appris que Pierre y était et lui envoyèrent deux hommes chargés de cette invitation. Rejoins-nous sans tarder. Aussitôt, Pierre partit avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était en leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde et se mettant à genoux, il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever et, rappelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura assez longtemps à Joppé chez un certain Simon qui était corroyeur.
Très bien. Alors, on a déjà vu où se situait Joppé. Je pense que ça fait 3-4 fois qu'on se le dit. Pas très loin. Hein. Le texte nous le dit d'ailleurs. Alors, juste un mot quand même sur Joppé. C'est une bien plus grande ville. On pourrait dire que Lydda, c'est un bourg, si vous voulez, un gros village. Et que Joppé, c'est une très grosse ville qui est en même temps le principal port d'Israël, déjà dans l'Ancien Testament. Donc, avant que Césarée existât, sous les Romains, il y avait un port qui était celui de Jaffa, qui est d'ailleurs toujours un port aujourd'hui. Et bien sûr, c'est aussi un port important pour la Palestine romaine, puisque ce port relie, par exemple, la contrée de Palestine à l'Égypte. C'est-à-dire que les bateaux font des virées régulières avec l'Égypte. Alors, on nous dit quoi ? Une femme, alors moi j'ai pas le mot femme, je le dis, je le répète, une qui était disciple, c'est ce que dirait le grec, une qui était disciple, donc on sait que c'est une femme.
Appelée Tabitha.
Ce qui nous donne une autre indication, c'est qu'il existe bien une église à Joppé. Hein?
Oui.
Bon, voilà, elle n'est pas toute seule comme disciple, manifestement. Il y a donc une assemblée messianique à Joppé. Et comment c'est... Alors, j'ai dit tout à l'heure que la plupart des églises de la Judée sont nées de la dispersion, mais pas que. Si vous vous souvenez bien, qui est passé par là, bien avant Pierre ? Dans ce qu'on a déjà vu dans les Actes, au chapitre 8.
Philippe ?
Oui. Philippe a déjà fait toute cette contrée, toute la côte, depuis Gaza, qui est plus au sud. Il est remonté de Gaza jusqu'à Césarée, pour évangéliser la région. Donc la plaine de Saron, si vous voulez, avait déjà été touchée par une première vague d'évangélisation, si vous voulez, par un gars qui avait le don pour faire cela. Donc ce n'est pas du tout impossible que des églises existaient déjà avant même la dispersion des disciples de Jérusalem. Alors, on sait quoi d'autre sur elle ? Elle s'appelle
Tabitha.
Alors, Tabitha étant le mot Gazelle. Araméen, hébraïsant, si vous voulez.
Gazelle.
Gazelle qui se dit en grec.
Dorcas, voilà. Dorcas. Donc, elle porte un joli nom. Hein ouais. Mais il s'agit bien... Elle a donc à la fois un nom araméen et un prénom traduit en grec, Dorcas, qui est le même, en fait. Puisque Tabitha ou Dorcas veut dire gazelle. Mais il s'agit bien d'une juive, relativement connue à Joppé, sous son nom grec. D'ailleurs, on voit que plus tard dans le texte, au verset 39, on va justement l'appeler Dorcas et non plus Tabitha. Donc ça veut dire que pour une partie des gens de Joppé, on la connaît sous le nom de Dorcas, alors que d'autres la connaissent sous le nom de Tabitha. En particulier, sans doute, tous les étrangers, les païens d'origine gréco-romaine, qui avait sans doute, d'après ce qu'on comprend dans le texte aussi, mais on le verra, profité, bénéficié de sa générosité, en tout cas pour tous les gens qui étaient pauvres à ses yeux. Alors, gazelle, ou Tabitha, ou Dorcas, c'est le nom d'un animal gracieux. Je pense que vous avez déjà vu une gazelle, c'est super beau. C'était fréquemment donné aux femmes dans l'Antiquité. D'ailleurs, il y a beaucoup de poètes orientaux qui utilisent... cette image pour parler des femmes, tout simplement. Et bien sûr aussi, dans les écrits comme ceux de Xénophon et Euripide, on trouve aussi ce genre de prénom pour une femme. C'est un nom finalement assez courant à l'époque. Et qu'est-ce qu'on sait d'elle d'autre ?
Qu'elle est très active, en tout cas.
Oui.
Généreuse,
oui.
Elle D'accord. travaillait bien aussi, elle travaillait bien, parce qu'on montre...
Manifestement. Donc le texte dit « riche »,
oui.
Pas riche au sens nécessairement de la finance, bien qu'on verra que c'est sans doute le cas. Alors il faut savoir que traditionnellement dans le judaïsme, les femmes qui étaient pieuses, hein, les femmes pieuses étaient souvent actives dans les œuvres caritatives comme une sorte de mécénat, si vous voulez. On finançait des écoles, on finançait une cantine, on finançait etc. etc. Et d'autre part, les aumônes font partie de la pratique religieuse traditionnelle aussi. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à faire de bonnes œuvres pour une juive, ni rien d'exceptionnel à pratiquer l'aumône. Ceci dit, elle le fait à la puissance X, d'accord ? Puisqu'elle est remarquée à cause de cela. Et d'ailleurs, le grec nous dit, utilise un mot bien spécifique, je vais le traduire comme ça, elle était pleine, elle était remplie de bonnes œuvres. C'est ça que dit le grec, en fait. Et pas seulement riche, voilà. Elle ne fait pas que de très belles œuvres, mais elle fait des choses tellement... Elle déborde de ça, si vous voulez. Bon. Sans doute que ces œuvres caritatives traditionnelles sont renforcées par la dynamique du partage qui habite la communauté messianique. On le sait avec ce qui s'est passé à Jérusalem. Bonnes œuvres, ben on peut penser évidemment à la confection de tuniques dont on nous parle dans le texte, hein. Et puis les aumônes. Qui implique, les deux mis ensemble, ça implique quand même que Tabitha Dorcas était suffisamment riche et généreuse que pour financer tout cela sur la durée. Car si vous l'avez remarqué, tous les verbes sont à l'imparfait. Donc ce n'est pas une action une fois, ou une fois par an, c'est tout le temps. Et c'est tout le temps qu'elle fait des choses, qu'elle finance, qu'elle donne de l'argent, etc. etc. Donc sans doute quelqu'un qui a pignon sur rue à Jopé, qui n'est donc pas la petite pauvre mendiante du coin du marché... quelqu'un qui est reconnu et connu, connu pour sa générosité. Et alors, on a une mention au verset 37, si je ne me trompe pas de verset. Alors, oui, mais moi, ce qui m'étonne, c'est l'affirmation « or en ces jours-là ». Mais lesquels ?
À l'époque.
Au moment de
Alors, au moment de la guérison d'aîné, ou tout simplement au moment de la tournée pastorale de Pierre. Donc en ces jours-là, vise, en Luc vise cela, en tout cas, la seule réponse possible qui ait du sens, c'est dans le contexte, c'est que ces jours-là correspondent à ceux où Pierre était présent à Lydda. Présent à Lydda, et bien sûr, comme il n'y a que 15 à 20 kilomètres entre Lydda et Jopé, bien sûr que Jopé est au courant qu'il est déjà à Lydda. Puisque eux l'attendent aussi, il fait partie de la tournée, n'est-ce pas ? Il n'y a donc pas de hasard. La providence divine est à l'œuvre, faisant concorder la venue de Pierre avec la maladie et la mort de Tabitha. C'est ça que Luc essaye de souligner. Il n'y a pas de hasard. Tout était programmé. Et on nous dit alors tout de suite après ça, après ces jours-là, elle tomba malade, poum, et elle mourut. Ça c'est quand même assez...
radical.
On ne sait pas si ça a été rapide, mais en tout cas, le texte l'est. Et bien sûr, à l'époque, vous le savez, il n'était pas rare de mourir des suites d'une simple maladie. Voilà. On n'avait pas toute la pharmacopée qu'on a aujourd'hui.
Voilà.
Bon. Donc, nécessairement, il y a des gens qui mouraient de pas grand-chose quand on était malade. Alors, maintenant, on continue à creuser. Qu'est-ce qu'on sait d'autre qui s'est passé après ? Elle meurt et puis quoi ?
On la lave, on la met dans la chambre haute.
Et pourquoi on la lave ?
Ben ça, je ne sais pas.
Parce que les morts sont impurs.
Voilà. Donc là, c'est juif, totalement juif.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, il faut la purification du mort, si vous voulez. Une dépouille mortelle, c'est toujours impur. Donc on lave et puis on habille pour la circonstance, c'est-à-dire l'enterrement.
Non, non.
Oui, tout à fait.
On le fait leur toilette. Oui.
D'ailleurs, on le fait nous aussi aujourd'hui.
La première, quand une personne meurt, la première chose, c'est la toilette.
Mais là, évidemment, ce sont des rites plutôt religieux, bien qu'hygiéniques.
Oui, mais ici, ça peut se comprendre, mais à l'heure actuelle, tu vois.
Et ça se fait encore. Hein.
Bah oui, mais pour quelle raison ?
On lave toujours
le mort. Parce que.
Oui, mais bon,
en fait. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu lâches un peu.
Tu lâches tout.
Tu lâches tout. Il y a tout qui sort.
Ça peut arriver.
vaut mieux laver.
Ah, il vaut mieux laver.
Pour ceux qui accompagnent de laver.
Il y a des fois aussi qu'on ferme vite.
Je sais pas, oui.
Parfois, on ferme vite si tu as eu beaucoup de médicaments.
Oui, oui. Voilà. Alors, oui, etc.
Ah, ça peut poser des problèmes.
Des problèmes, des choses.
Oui.
Donc, on a résolu notre problème du lavage. On va essayer d'aller un peu plus loin. Juste un petit détail, bien sûr, quand il s'agissait des femmes, seules des femmes s'occupaient de cette tâche.
Ben, okay. Bien sûr.
Et pas de possibilité pour les femmes. Et puis, donc, on habillait la dépouille mortelle pour la circonstance, mm-hmm. pour l'ensevelissement. Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut parler de linceul, le genre de linceul?
Oui, aussi. Oui, oui, mm-hmm. oui. Alors, est-ce qu'elle l'était là? Nul détail dans le texte nous permet de dire qu'elle était déjà enveloppée. Mais en tout cas, elle était exposée dans cette fameuse chambre haute dont on va parler dans un moment. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, c'est que si on l'a lavée, et ça c'est le détail, j'allais dire, qui tue, hein, sans jeu de mots, c'est qu'elle est bien décédée.
Oui.
Donc Luc insiste sur ce détail pour nous dire, dites, on n'a pas pris le soin de la laver. Hein, pour qu'elle se réveille deux secondes après, parce que Pierre arrive, quoi, tu vois. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est passé. Elle est réellement morte. On est en train de préparer les funérailles. Et en principe, suite à cette préparation mortuaire, ben, l'ensevelissement, on l'a déjà vu, ça, on a déjà parlé plusieurs fois, aussi bien quand on faisait Jean que dans les actes, avait lieu aussi rapidement que possible et avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, on enterrait les gens directement dans leur linceul. Donc, du coup, le détail de la chambre haute, une fois qu'on sait ça, ça paraît quand même bizarre.
Pourquoi ?
Voilà. Bonne question. On la dépose. Oui, au lieu de descendre, on monte.
Hein. On la monte.
Et on monte. Alors, c'est quoi une chambre haute? Vous avez un peu gratté.
La chambre haute est sur le toit. Est utilisée comme lieu de prière pour implorer la puissance alors, de
là,
Dieu.
C'est là que les disciples étaient réunis quand ils étaient là. Ils étaient souvent là aussi.
Eux étaient dans une très grande chambre haute hein, mm-hmm. à Jérusalem. Mais là, vraisemblablement, comme toutes les maisons modestes, je dirais, en général, on construisait une sorte de grenier sur le toit plat, donc sur la terrasse, oui. le toit-terrasse, si vous voulez. Et on y rangeait toute une série de choses. Donc, en l'occurrence, ici, cette pièce devait pouvoir contenir quelques personnes, mais pas énormément. Il n'est pas question d'y faire une réunion de famille, ni un enterrement. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le lieu. Normalement, on quitte la maison et on enterre, point final. Oui. Donc, l'exposition du corps dans cette salle nous indique autre chose.
Oui, mais comme ils ont appelé Pierre.
Voilà.
Donc, c'est pour ça, oui.
Et donc, ils attendent Pierre.
Exactement.
Et donc, ils espèrent.
Donc, ils retardent les funérailles dans l'espérance que Pierre réponde positivement à leur appel.
Oui.
Ce qu'on va voir un peu plus loin. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il savait bien que oui, Pierre était dans le coin, que Pierre pouvait être là avant la tombée avant la tombée de la nuit, avant que le soleil se couche.
Et ils espéraient déjà un miracle ou c'est juste...
Alors voilà, c'est là que je trouve que les commentaires vont bon train dans tous les sens. Certains insistant sur le fait que le message serait été « Viens vite ressusciter Tabitha ».
Rejoins-nous sans tarder.
Voilà. Ce n'est nulle part dans le texte, en tout cas exégétiquement parlant, indiqué qu'il y a un quelconque espoir de guérison. Par contre, on peut facilement imaginer que ne pas inviter Pierre, alors qu'il est à quelques kilomètres, c'est un non-sens. Mmh. On a la colonne de Jérusalem, une des trois colonnes de Jérusalem qui est dans le coin. On va l'inviter pour nous exhorter, nous consoler, et qu'il préside à cet enterrement. Point. C'est une femme hyper connue à Jopé, membre de la communauté, donc ils veulent faire une pierre deux coups. D'accord ?
Oui, mais ils envoient deux hommes dire à Pierre, rejoins-nous sans tarder. Mais les deux hommes, ils savent qu'elle est morte.
Alors, bien
qu'elle
sûr.
Oui, qu'elle est morte.
Qu'elle est morte.
Donc ils oui, le disent aussi, quoi.
Bah, et d'ailleurs, donc, le texte insiste, hein, verset 38, « Comme Lydda est proche de Jopé ». Vous voyez ? On se dit, bah oui, allons-y. 15 à 20 kilomètres, c'est par les deux villes. Soit, si on traduit en heures de marche, 3 à 4 heures de marche. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, on marchait beaucoup et on marchait vite.
On demande pas.
Ainsi, pour l'aller des deux disciples, le retour de Pierre, 6 à 8 heures de voyage au total. Mm-hmm. On peut donc estimer que le décès avait eu lieu fin de nuit ou très tôt le matin. Et que ça permettait d'aller directement à l'enterrement, ce qui permet donc l'ensevelissement selon la coutume. à défaut, parce que maintenant on n'est pas là pour deviner à quelle heure elle est morte, n'est-ce pas, à défaut, dans la règle, dans le judaïsme, si tu meurs tardivement dans la journée, tu es enterré le lendemain matin dès l'aurore. Donc dès que le soleil se lève, on fait l'enterrement. Donc quel que soit le cas, que Pierre soit arrivé de nuit dans la chambre haute ou en fin de journée à la chambre haute, ne change rien au récit en lui-même. Alors c'est vrai que le message est quand même assez suppliant, on va dire. Hein. Rejoins-nous sans tarder. Très court message, sous forme de supplication, qui confirme d'ailleurs l'urgence de rejoindre le groupe des disciples. C'est pas « tu as tout le temps, viens quand tu veux ». C'est « dépêche-toi de venir ». Et c'est une demande des disciples de Lydda pour les funérailles. Il n'y a pas d'autre raison pour les funérailles d'une femme remarquable.
Mais ça me fait penser à Lazare, moi, qu'on a appelé Jésus, et lui, il a traîné encore.
Exactement. Lui, il a pris son temps. Bon, il n'était que malade, c'est vrai, à ce moment-là, mais il a pris tout son temps. D'ailleurs, on en reparlera dans un moment, c'est intéressant. Alors, on peut aussi facilement imaginer que ce type de message « Rejoins-nous sans tarder » dans la culture, c'est comme si on disait « Dépêche-toi, quelqu'un est mort, il faut venir », quoi, tu vois, quelque chose comme ça.
Mais tu crois qu'il ne peut pas y avoir quand même une arrière-pensée avec tout ce qui s'est passé avec Amy?
Oui, sans doute.
Est-ce qu'il avait déjà ressuscité?
Une arrière-pensée chez les disciples?
Oui.
Pourquoi pas?
Il y avait déjà eu une arrière-pensée?
Tu crois que... Mais on peut que dire Jésus. Non et oui, que Jésus, mais voilà. Pourquoi pas?
C'est la première.
Oui, mais en même temps, on n'a aucun autre détail dans le texte qui nous permette d'en tirer la conclusion. C'est pour ça que moi je trouve quand même que les commentateurs parfois prennent des libertés avec le texte lui-même.
Dans un sens comme dans l'autre. Et pour moi, la seule chose qui peut presser, c'est que, comme tu dis,
la
chaleur, on l'a enterré très vite. Donc avant qu'elle soit enterrée,
bien vite. Bien vite avant quand même.
Avant de... Moi je crois que c'est là.
En fait, si tu veux, c'est un espèce d'honneur d'inviter un des trois piliers de la communauté de Jérusalem, la première communauté de l'histoire, si tu veux. En plus, la demande est quand même très... Enfin, le verbe « inviter hein, » était quand même très fort en grec. C'est vraiment prier, appeler. C'est comme une supplication, d'une certaine manière.
D'un côté, Luc ne dit pas qu'une fois que Pierre est là... qu'on insiste pour qu'il fasse
Je te dis, rien dans le texte ne peut nous aiguiller vers la fameuse résurrection.
Et en plus,
je dis tout de suite que j'aime pas du tout ce terme.
Il y en a qui passent du temps à montrer ce qu'elle faisait. Le récit post-mortem, cette personne était bonne parce que ceci, parce que...
Exactement. C'est pour ça que moi je trouve qu'il n'est pas légitime ou convenable de penser que les gens de Lydda l'ont invité. C'est ça. Pour que s'opère un miracle.
Je ne dis pas ça, mais Aîné était connu, réputé, puis il a élevé, etc. Bon, et puis il vient marquer, ils se convertirent au Seigneur, tout le monde. Donc, la dame en question,
Tabitha,
était aussi connue. Alors, moi je ne sais pas, quand tu es connu de l'habitant, tu invites les gens à la suite d'un décès. C'est-à-dire l'enterrement, etc. Donc, je ne fais pas de supposition, mais pour moi, ça me paraît logique que quelqu'un qui est né, ressuscité, guéri, qu'on invite quand même quelque chose. Je ne viens pas supposer qu'ils attendaient une guérison. Je ne dis pas ça. Mais au moins, le respect d'une personne qui était...
D'ailleurs, si Pierre avait eu l'intention, déjà là, à Lydda, de, entre guillemets, ressusciter, j'aime pas du tout le terme, parce qu'il n'y a qu'une résurrection, c'est celle du Christ, donc de réanimer cette femme, il n'aurait pas agi avec précipitation. Il aurait pris son temps, comme Jésus, tranquille. Ça a encore plus d'effet si elle est morte depuis un certain temps. Tu vois ce que je veux dire.
Sauf que s'il prend son temps, un risque d'être enterré.
Ça aurait pu. Effectivement.
Et quand tu es enterré, c'est plus...
Oui, mais donc ça suppose bien que s'il se dépêche, c'est parce qu'il veut participer aux funérailles.
Ouais, voilà.
Parce que c'est quelqu'un de remarquable.
Voilà. C'est comme ça que je le vois.
Voilà. Et c'est ce que le texte nous laisse entendre, en tout cas. Et on voit même, au verset 39, qu'aussitôt Pierre partit avec eux. Donc, il ne commence pas à tergiverser.
Oui,
il les suit immédiatement. Mm-hmm. Ce qui indique l'endurance des deux gars qui sont déjà montés à Lydie peu, et qui redescendent à Joppé. Donc, comprenant l'urgence, ben, Pierre les accompagne immédiatement. Et dès son arrivée, comme tu l'as bien souligné, Bernard, il est introduit dans la chambre haute. On ne lui demande rien. On ne lui dit pas, tiens... Est-ce que tu peux nous faire un petit miracle,
oui.
Toi qui t'appelles Pierre, etc. Non. Et on nous insiste même avec un tableau, au verset 39, extrêmement touchant, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Voilà que celles qui ont travaillé avec elle, celles qui étaient même au bénéfice des largesses, de la générosité de Tabitha, pleurent. Alors, ce n'est pas des veuves pleureuses, hein. ce n'est pas des gens payés pour ici, mm-hmm. c'est vraiment des gens collaboratrices, veuves, qui ont travaillé avec elle.
Triste.
Et le grec, d'ailleurs, nous indique une chose assez intéressante, parce qu'on ne le comprend pas dans nos versions françaises, mais elle montre à Pierre ce qu'elle porte elle-même. Mmh. Parce que le verbe est au moyen en grec, c'est-à-dire montrant, sous-entendu, ce qu'elle porte. Alors, la tunique, c'est quoi? La tunique, c'est la vêtement du dessous, un peu comme une blouse, si vous voulez, une blouse assez longue. Et puis, par-dessus, tu avais une espèce de... Alors, on dit manteau, mais c'est peut-être pas vraiment... on va dire un vêtement de dessus ou un vêtement d'extérieur, un vêtement qu'on met pour aller dehors. Mais à l'intérieur, on peut ne pas le porter, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces femmes qui pleurent leur montrent toute la générosité. Enfin, elles témoignent finalement de qui était Tabitha. Mais de nouveau, on s'aperçoit qu'elles ne demandent rien. Elles ne disent pas, mais dis, fais quelque chose d'extraordinaire ici, parce qu'on ne peut pas se passer d'elle. Mmh. On a besoin de Tabitha. Personne ne mentionne l'idée... Ni les messagers, ni des disciples en arrivant là, ni les femmes qui sont présentes n'exigent quoi que ce soit de Pierre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait Pierre?
Il les chasse
dehors. Si on imagine qu'il était là pour réanimer Tabitha, comment mieux marquer les esprits qu'en gardant les témoins sous la main? Vous voyez, je vais vous faire une belle résurrection ici. Devant mon public. Mais non, lui, le verbe en grec est assez fort. Il pousse tout le monde dehors. C'est le verbe ekbalo qui est utilisé.
Ça doit être quand même terrible aussi que s'il se trouve seul avec la personne, puis que la personne sorte de la pièce devant tout le monde.
Mais ben, ce qu'il fait là est assez... Dis-toi bien que pour un milieu juif, ce que Pierre fait là est quand même...
C'est pas correct du tout.
Mais oui,
parce qu'il est homme. Il sera seul avec une dépouille femme. C'est quand même problématique. Donc il fait quand même... Et on voit que le verbe utilisé en grec veut montrer qu'il y a quand même une réticence de la part des quelques personnes qui sont là. C'est-à-dire les messagers et les veuves, on ne sait pas combien elles étaient. Il a fallu un peu les pousser dehors, quoi, tu vois. Avec un peu de fermeté, un peu d'autorité. Les envoyer dehors. Alors... Peut-être que dehors, c'est seulement sur le toit. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque voilà, on est à chambre, elles n'ont pas fait sortir dans la rue. Hein. Donc voilà, elles sont... Il veut être seul, en fait. Il veut être seul.
Tu as une idée? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a voulu être seul?
Moi, je pense parce qu'il cherche quelle est la volonté du Seigneur, tout simplement. Il a besoin de se recueillir. Parce que ça, c'est quand même étrange aussi. Pourquoi a-t-il besoin de s'arrêter à prier s'il avait reçu la mission intime, si vous voulez, de ressusciter cette femme? Il n'avait pas besoin.
Il n'a pas fait avec l'autre aîné. On ne dit pas qu'il a prié avant.
Sa prière est immédiate, dans le cas d'aîné. D'ailleurs, il ne demande rien à personne non plus. Mais là, étrangement, on voit bien qu'il y a toute une préparation mentale pour Pierre. Hein. Dans la suite du verset.
Il y a quand même une différence. Il tourne vers le corps, donc ça veut dire qu'il n'est pas à côté du corps quand il prie.
Et on a déjà des exemples dans la Bible, comme ça, de Jésus qui met des gens à l'écart.
Oui, avec la
petite fille de Ou bien, je pense à Élisée, la réanimation du fils de la Tsunamite, par exemple, dans l'Ancien Testament. L'idée qu'un homme mette dehors des gens parce qu'il... Il va faire quelque chose dont il ne veut pas de spectaculaire, par exemple. Mais en l'occurrence, ici, je pense sincèrement que la suite du passage nous montre que Pierre ne savait pas ce qui allait se passer. Donc Pierre, alors le grec est assez fort, ça vient de l'araméen vraisemblablement, tombe à genoux. C'est-à-dire que devant la tristesse de l'événement, devant la tristesse des gens, il est très touché et il se laisse tomber à genoux. Et puis, il profite de sa position. Alors, Imaginez la scène, il est à genoux dans une pièce pas très grande et il ne regarde pas le corps. Vous voyez ? Il ne recherche pas à être son attention liée au corps de la défunte. Le texte nous dit clairement qu'il est sans doute hors du champ de vision du corps, puisque plus loin, il va nous dire qu'il se retourne vers le corps avant de parler. Donc, quelque part, il cherche vraiment le face-à-face avec Dieu. Et ce passage est très éclairant. Une attitude de recherche de la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette circonstance délicate et triste pour tout le monde ? On m'invite ici. Que dois-je faire, finalement ?
Il y a quand même une différence avec l'année, c'est qu'il met Jésus-Christ en évidence. Il dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. Ici, il dit, lève-toi.
Tout simplement.
Tout simplement.
Mais ce n'est pas un lève-toi, on verra tout à l'heure, ce n'est pas un n'importe quel lève-toi. En fait, dans ce temps de prière, dont on ne sait pas combien de temps ça a duré, hein, dans ce temps de prière, il trouve la réponse. Et une fois convaincu de la réponse, de ce qu'il doit faire, eh bien, il agit. Et il agit pour la plus grande gloire de Dieu, puisque ça va avoir aussi un retentissement. Et le texte en grec nous dit, se tournant, donc se retournant, si vous voulez, vers le corps, cette fois-ci, il prononce le nom, Tabitha, le nom de la personne, et il dit exactement la même expression que Jésus dans Marc 5. Hein, rappelez-vous, Talitha Koumi, dit Jésus, eh bien c'est Tabitha Koumi ici, en araméen, ça veut dire, ben oui, lève-toi, c'est-à-dire réveille-toi quelque part, reviens. Et Tabitha, et c'est immédiat, Tabitha ouvre les yeux, elle voit Pierre, qu'elle ne connaît pourtant pas, n'est-ce pas ? Et elle se redresse et s'assied. Sous-entendu, elle est à nouveau vivante. Car quel est le mort qui ouvre les yeux ? À la limite, bon, oui, admettons, hein, en poussant très fort les choses, mais qui te regarde, qui se redresse de son lit, de la couche sur laquelle elle est, et s'assied, vivante ou guérie ? Parce qu'encore une fois, voilà, oui, oui. Quelle est la différence entre les deux ? Et que fait Pierre à ce moment-là ?
Il lui prend la main.
Ok.
Et l'aide à se lever.
Alors, pourquoi le fait-il ? Alors là, de
là,
nouveau...
Là, il aide à se lever alors que l'autre était paralysé, il n'a même pas aidé.
Oui. Alors, certains commentateurs, moi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais pensent qu'en fait, elle est déjà dans le linceul. Et que se lever toute seule aurait été impossible. Et donc, il fallait au moins la mettre sur pied et peut-être défaire tout ce tralala qui est autour d'elle. Donc, ça veut aussi dire, d'une certaine manière, que Tabitha... Alors, je ne sais pas si elle se réveille consciente de la trajectoire, sa maladie, la mort et tout ça, mais elle doit bien prendre conscience qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal dans ce qui se passe là, quoi. Alors, l'un seul ou pas, on ne va pas se disputer. Il a besoin de l'aider à se relever, en tout cas. Et puis, bon, le texte nous explique qu'il appelle. Ah, ça veut dire qu'ils sont très près. Parce que voilà, s'ils étaient dans la rue, ils n'auraient rien entendu. Ils sont sans doute sur le toit en train de papoter. Il les appelle et il la leur présenta, dit le texte, vivante. Alors cette idée d'accompagner un réanimé, moi je vais utiliser cette expression, auprès des siens, c'est pas unique dans la Bible. On trouve cela dans Un Roi, dans Deux Rois, dans Luc. Donc il y a des événements qui sont déjà probants, qui montrent que... Alors je pense qu'il y a des raisons à cela. Par exemple, vous vous rappelez, dans une des réanimations de Jésus... je crois que c'est la fille de Jairus, mais je ne suis plus certain, il lui propose même de manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Toucher quelqu'un, la prendre par la main, ou le faire manger ou boire, apporte la preuve qu'il n'est pas un fantôme, que c'est bien la même personne que l'on a connue, qui est revenue réellement à la vie. C'est ça que ça dit, hein, quelque part. Et bien sûr, bah voilà, ça se passe dans le petit cercle des disciples, mais la suite du texte nous dit, bah voilà... Toute la ville fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. Alors je me suis interrogé, je n'ai pas fini de m'interroger d'ailleurs, sur la différence qu'il y a entre Lydda et Joppé. À Lydda, on n'utilise pas la même expression. À Lydda, on dit que les gens se sont tournés vers le Seigneur, alors dans l'idée de repentir, de revenir à Dieu. Et ici, on parle de croire en lui, c'est-à-dire de placer sa confiance en lui. Et je vais continuer à gratter parce que je n'ai pas eu le temps vraiment, mais j'aimerais vérifier s'il y a une réelle différence entre les deux. Et quelle est-elle et qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer ?
Quand tu trouveras quand tu te convertis quand même à quelque chose, c'est que tu y crois.
Oui, mais tu vois, on peut imaginer que si c'était des craignants Dieu dans le premier cas...
À la limite, tu pourrais, croire au Seigneur et ne pas te convertir. À la limite, hein, je dis. Je trouve que dans un sens, c'est plus facile que dans l'autre.
Mais, oui. Mais est-ce que Alida, c'est pas plus des païens que ici, c'est des juifs?
Voilà, je pense qu'il y a un petit.
Et donc les juifs croient déjà en Dieu, mm-hmm. et ici.
Maintenant, ils croient en lui. Croient au Seigneur, dit le texte, au Seigneur.
Oui, non, mais en tant que juif, il croit en
oui,
Dieu.
Oui, tout à fait.
Et là, il accepte le Messie, quoi. Il
croit en Messie. Exactement. Je pense que c'est ça le, pour moi, mais je voudrais vérifier davantage. Je pense que Luc ne fait jamais rien par hasard. S'il utilise une expression à Lida et pas la même, c'est qu'il y a une différence quelque part. Et la différence pourrait être celle, effectivement, que ça a touché beaucoup plus les gréco-romains, le premier truc avec Aîné, que là, Tabitha, où ça a l'air de toucher davantage des juifs qui, du coup, n'ont pas à se convertir, mais à croire que Jésus est le Messie. Point final. D'accord ? Voilà. Bon, on verra si ça tient la route. Je continuerai à chercher un petit peu. Et puis, le texte, on se dit, tiens, ça se termine bien, c'est formidable. En même temps, s'il y a un résultat, il semble moindre que la guérison d'Aîné, du moins en apparence. Parce qu'en effet, en regard de Joppé, qui est la grande ville portuaire, Lida n'était jamais qu'un gros village. Donc on peut avoir beaucoup de conversions à Lida, mais qui peut-être sont moindres finalement que la grande ville de Joppé. Voilà, bon, peu importe. Mais on peut en tout cas.
Oui,
on peut donc sans doute en conclure que la foi véritable, d'ailleurs, ne vient pas d'un miracle, si grand fut-il. Oui. Elle vient de l'évangile finalement, elle vient de l'annonce de la bonne nouvelle. Et les miracles servent juste à indiquer. Hein, ce sont des signes indicateurs qui sensibilisent les gens à la bonne nouvelle ou à qui est le Messie, tout simplement, à dévoiler qui est le Messie. Mais bon, on en reparlera sans doute.
C'est quoi un courrier ?
Alors justement, on va y venir, c'est intéressant. On nous dit que Pierre, j'utilise la première partie du verset 43, Pierre demeura assez longtemps à Joppé. Et « assez longtemps », c'est la même expression qu'au verset 23, qu'on a déjà analysé. Et qu'est-ce qu'on s'était dit ? Qu'assez longtemps, ça pouvait être des années. Ouais. D'accord ? Donc ici, Luc de nouveau nous indique que Pierre n'est pas resté juste deux jours, puis que là, qu'il a fait son miracle, il est parti ailleurs. Il va rester à Joppé le temps qu'il faut. Et la question, c'est pourquoi ? Et je suppose qu'on a tous un peu la réponse au bout des lèvres.
Probablement enseigner tous les disciples.
Tu imagines.
Ils avaient probablement besoin d'enseignement, d'être fortifiés dans la doctrine de Jésus.
Alors il y a ça, et puis il y a le fait que voilà, la communauté est en pleine croissance. Ben quoi. Oui. Tout d'un coup, il y a plein de gens d'origine juive qui croyaient en Dieu, eux, effectivement, Dieu d'Israël, puis qui tout d'un coup deviennent messianiques et l'Église est débordée, tout simplement. Et donc débordée, notamment, en termes d'enseignement, d'enseignants. Et Pierre prend donc à cœur l'édification de tout ce public-là, la consolidation de l'Église locale dans sa croyance au Jésus-Messie. Et quand Dieu le souhaitera, eh bien, il l'enverra ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite, manifestement. Et alors, deuxième partie du verset, Luc va jusqu'à nous préciser où habite Pierre pendant ce temps où il reste à Joppé. Chez un certain Simon, comme lui, qui était corroyeur. Je ne sais pas si vous avez été chercher un peu dans les dicots.
Chez un ouvrier sur cuir.
Ouvrier sur cuir.
Ouvrier sur cuir.
Ok. Tanneur. Alors, on va essayer d'analyser. En tout cas, une première chose qui ne doit pas nous effrayer, c'était de coutume de nommer les personnes par leur occupation ou leur profession ou par leur lignée parentale. Hein, c'est le fils d'eux ou bien c'est celui qui est corroyeur. Mais le détail ici, de nouveau, Luc ne dit jamais rien pour rien. Le détail nous apprend que Pierre est déjà dans une démarche de liberté, bien comme de Dieu, donc considéré comme un homme de Dieu, parce qu'il agit en dehors de la stricte observance de la loi, puisqu'il loge chez un corroyeur. C'est un métier impur à cause de la manipulation des carcasses d'animaux morts et de peaux. Donc c'était, d'après la loi, en général, la plupart de ces corroyeurs travaillaient hors des villes. Et si possible, près d'un point d'eau. Ici, le bord de mer, nous dit le texte. Si vous allez voir plus loin dans le chapitre 10, quand il est question de Corneille, au verset 6 et au verset 32, on nous apprend que ce Simon, sa baraque était au bord de l'eau, hein, sur, quasi à la plage, quoi, hein. Bon, c'est pas pour la plage que Pierre y va, mais c'est pour l'hébergement, en tout cas. Donc, il nous apprend ce détail que Pierre a accepté l'hospitalité de Simon, et qu'il se situe, lui, au-dessus des préjugés des pharisiens et des règles en lien avec la mort. C'est quand même intéressant. Il vient de ressusciter quelqu'un de la mort et il habite dans un lieu où on côtoie la mort au quotidien. À strictement parler, le métier de corroyeur correspond à la transformation en produit fini des peaux qui sont déjà tannées, c'est-à-dire les découper ou faire des courroies, par exemple corroyeur, courroie, vous voyez d'où ça vient, découper, assembler, coudre, coller, mais, ou tout simplement réparation, entretien et réparation, je ne sais pas, des selles de chevaux, de chameaux et tout ce que tu veux. Donc il transforme les peaux brutes en cuir, si vous voulez. Mais la plupart des corroyeurs de l'époque sont aussi tanneurs, parce que pour pouvoir être alimenté, il faut des peaux brutes, donc souvent des carcasses d'animaux qu'il faut dépecer, avec tout ce que ça comporte, des nettoyages, le bain au tanin, au bois, le séchage, le frappage, il fallait frapper les peaux, les graisser, etc., pour les rendre luisantes. Bon, ça semble être le cas ici, comme on peut le voir avec le chapitre 10, versets 6 et 32, qui mentionne clairement que Simon habite en bord de mer, donc il peut utiliser l'eau de mer qui est là à profusion, c'est-à-dire à l'écart de la ville, en dehors de la ville, et là où il y a de l'eau, pour laver les peaux, etc. Peut-être ce détail est-il aussi un clin d'œil de Luc, en vue de préparer les fameux lecteurs au long récit qui concerne le centurion Corneille. Parce que ça, c'est pas triste non plus, en termes d'impureté. Hein. Au chapitre 10, c'est ce qu'on va voir dans un petit instant, hein, quand on aura le courage de travailler le texte. Alors, voilà, moi je pense qu'on a survolé les deux récits de cette longue péricope. Est-ce qu'on peut un peu réfléchir à ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions pour nous-mêmes?
Concernant Pierre, il avait déjà eu la vision de ce qui était pur et impur par rapport, tu vois?
Non, ça va arriver. Mais par contre, il sait très bien ce qui est impur en tant que juif.
Et justement, ici, il se mêle avec des choses impures, alors qu'au départ, il ne le voulait pas, quoi.
Oui, mais après, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent le trouver et qui a une polémique avec ça.
Ceci dit, ici, Simon est juif. Donc, il n'a pas de mal à côtoyer un juif, même s'il fait un travail qui n'est pas reluisant, on va dire, comme ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que Pierre a déjà pris des libertés par rapport au temple, par rapport aux règles en général du judaïsme. Comme si la voie messianique se permettait plus de choses, de moins respecter certains détails de la loi.
S'il avait été encore un petit peu éthique sur la question, probablement qu'il aurait été logé chez quelqu'un d'autre. Je suppose, pour ne pas se rendre...
Vu la grandeur de l'Église, je pense qu'il n'aurait pas eu de difficulté à trouver. Non, tout à fait, je pense que... Peut-être même qu'il fait les choses intentionnellement.
Il a dû être mis au pied du mur, quand même, avec cet événement-là, tu vois, de cette vision. Et c'est quand même une remise en question.
Mais Jésus,
la vision va intervenir après-demain.
Ouais, Jésus, il provoquait aussi, hein, quand tu vas chez...
Mais, tu vois, pourquoi Mathieu respecter à la lettre certains points de la loi qui n'ont plus rien à voir avec la venue du Messie? Si le Messie a fait un boulot de purification, etc., pourquoi tenir compte de toute une série de règles qui te ramènent à l'observance d'une loi stricte? Et je pense que la plupart des disciples prennent des libertés par rapport à des règles qui leur semblent périmées, tout simplement. Par contre, ils vont continuer à faire Shabbat, ils vont continuer à aller prier au temple, etc. Oui. Mm-hmm. Ou même offrir des sacrifices. Pourquoi pas. Ok, alors, est-ce qu'on a deux, trois trucs comme ça qui nous ont parlé, touché? Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques. Je ne sais pas quelle heure il est.
9h15.
Je voulais juste vous amener à un truc qui m'a quand même frappé avec Tabitha. Quand on dit qu'elle est riche en bonnes œuvres, etc. J'ai fait deux constatations. C'est que finalement, le diaconat fraternel, social, qu'elle pratique, bah, ça reste une nécessité pour toutes les communautés de tous les temps. Hein. Donc, quand on n'a plus de diaconat dans l'Église, on devrait s'inquiéter un peu. Quand on n'est plus prêt à aider quelqu'un qui se trouve en situation difficile, on peut se demander si on pratique vraiment encore la charité quelque part. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les bonnes œuvres, ben, elles ne doivent pas nécessairement dépendre de la gestion de la communauté. Vous voyez ? Or, nous, moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on est devenu tellement dépendant de la vie communautaire qu'on estime que c'est à la communauté organisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, on fait des bonnes œuvres, mais au travers d'eux. Alors que la foi nous renvoie à nous-mêmes. La foi nous renvoie à notre propre responsabilité, je pense au SDF qu'on côtoie parfois, à l'amour du prochain, à la générosité pour Dieu, et ça ne doit pas nécessairement être au travers de la caisse des finances d'une église, ni d'ailleurs d'une institution. Je pense à des œuvres caritatives, par exemple. Hein. Voilà, on peut aussi, nous, avoir une démarche spirituelle qui consiste à donner le meilleur de nous-mêmes, en croyant que ça a une action positive sur les gens. Voilà.